Place Info.
Bonjour Emmanuel Faber.
Bonjour.
Vous êtes donc à la tête de Danone, géant mondial de l'agroalimentaire, 100 000 salariés à travers le monde, un chiffre d'affaires de quasiment 25 milliards d'euros, numéro 1 mondial des produits laitiers, numéro 2 des produits pour enfants, des eaux également, on va en parler. Mais vous êtes aussi un patron sans doute atypique, capable de rendre, comme vous l'avez fait récemment, votre retraite chapeau, engagé pour l'environnement, contre les inégalités. Est-ce que vous diriez que vous êtes un patron comme on n'en fait pas ou plus aujourd'hui en France ?
Je sais pas, j'essaye d'être un patron comme il en faut un pour Danone en tout cas.
Patron quoi ? Social ? De gauche ?
Ça j'en sais rien, je me méfie des étiquettes même si on en met beaucoup sur les produits. Simplement un patron attentif, à l'écoute de toutes les transformations profondes de la société, des modes alimentaires, de la nécessité de changer les modèles agricoles. Et donc capable aussi de prendre des risques à la fois sur le contenu mais aussi sur la façon dont on dialogue avec les uns et les autres pour conduire tous ensemble cette révolution de l'alimentation.
Renaud Dely.
Parmi ces engagements, cette révolution que vous évoquez, il y a l'engagement écologique. Aujourd'hui, ce tournant écologique, c'est une obligation, vous devez le prendre et vous revendiquez le statut d'entreprise verte ou d'entreprise écolo pour Danone ?
Ouais, j'aimerais pouvoir le revendiquer. C'est une transformation permanente. On est, comme vous venez de le rappeler, on est leader mondial du bio. On est aussi leader mondial des alternatives végétales au lait. Et il ne s'agit pas d'être contre, mais il s'agit de répondre à un besoin de flexibilité et aussi un besoin d'évolution des modèles agricoles à très long terme. On a beaucoup déconnecté depuis 50 ans les modèles alimentaires et les modèles agricoles. Et il est urgent de les reconnecter ensemble.
Et peut-on revendiquer le statut d'entreprise écolo, en tout cas s'engager dans cette voie, quand par définition on produit aussi des millions de bouteilles en plastique ou des pots de yaourt par exemple aussi.
C'est pour ça que je parle pas de revendication, je parle de faire. Parce que les modèles d'alimentation, et aujourd'hui c'est une journée symbolique puisque c'est la journée mondiale de l'alimentation, c'est celle qu'on a choisie d'ailleurs en France pour réitérer l'opération de l'année dernière, notre Green Day. L'année dernière on avait donné...
Green Day, donc la journée verte.
La journée verte, absolument.
Le CSA veille, Renaud Dely aussi.
Et je la revendique en tant que telle. On avait donné l'année dernière la totalité du chiffre d'affaires d'une journée de nos marques en France pour des projets tournés vers l'agriculture régénératrice en amont de nos productions. Et cette année, on réitère avec un partenariat exclusif avec Auchan dès aujourd'hui et jusqu'au 20 octobre pour faire la même chose, c'est-à-dire continuer à soutenir la transition des modèles agricole en France en particulier. Et donc,
concrètement, ces sommes, elles servent à quoi donc ?
Elles servent à financer la transition vers de l'agriculture biologique.
La sortie du glyphosate.
Sortir
aussi.
Du glyphosate, absolument. Se passer. On va financer avec ça la protection de la biodiversité. Un agriculteur qui nous livre des pommes pour Blédina dans l'Hérault et qui souhaite replanter des haies et des buissons dans son verger, qui va lui permettre de lutter contre les ravageurs de façon naturelle, d'augmenter la biodiversité, de protéger ses pommiers du vent. Ça coûte 10 000 euros et ça fait partie de ce que aujourd'hui les consommateurs peuvent choisir de soutenir. Les projets de conversion au bio, puisque en Haute-Normandie, on a une collecte de lait bio pour notre marque Lait de Vache et pour Danone, Activia, etc., qui se convertissent aussi à des gammes bio pour nos grandes marques. La conversion au bio, ça suppose de modifier les pratiques agricoles, de se passer de phytosanitaires, dont le glyphosate, de replanter de la luzerne pour augmenter le rendement du pâturage. On remet les bêtes en pâturage, ce qui permet de restaurer les sols, de reconstruire de la biodiversité. Et puis, vous citiez les eaux tout à l'heure. Les eaux, on protège avec Evian et Volvic notamment plus de 200 km² de zones humides dans les bassins versants avec les agriculteurs sur les forêts, les champs, les prairies, de la biodiversité depuis 20 ans. Et ce rôle-là, il est absolument essentiel que les grandes marques le fassent. Ça ne peut pas être, entre guillemets, juste les petites marques, les petites enseignes, le local, le bio. Tout ça, c'est extrêmement important. Mais il faut aussi transformer le modèle alimentaire principal.
Emmanuel Faber, PDG de Danone, quelle est la part aujourd'hui de vos produits qui est passée au bio ?
5%.
5%. Il y a un objectif fixé à combien ? Vous le savez déjà. Et est-ce qu'il y a un plafond aussi ?
Non, il y a pas de plafond.
Est-ce que vous dites on n'arrivera pas à passer l'intégralité non, parce par que exemple de nos yaourts au bio
je crois pas que le bio soit la
sauf
seule
à se priver d'un marché parce qu'ils seront plus chers.
Non, mais c'est un des sujets, c'est-à-dire que la question de l'accessibilité de l'alimentation, elle reste extrêmement importante. Entre le bio et de l'agriculture qui détruit complètement les sols, vous prenez un sol dans une forêt, c'est capable d'absorber 150 millilitres d'eau de pluie à l'heure. Dans des grandes plaines céréalières, le sol est tellement érodé, il a tellement perdu de matière organique qu'il n'absorbe que 1 millimètre de pluie. C'est pareil sur la présence des vers de terre dans le sol. C'est essentiel de reconstruire tout ça. Et vous ne pouvez pas reconstruire tout ça en convertissant intégralement l'agriculture au bio. C'est pas possible. Et je ne crois pas que ce soit nécessaire. Simplement, il y a aujourd'hui des techniques de l'agriculture de conservation, de l'agriculture raisonnée, un certain nombre de choses vers lesquelles il faut avancer de façon à ce qu'on se prépare pour le changement climatique qui de toute façon va nécessiter de transformer un certain nombre de choses. Donc le bio en soi n'est pas pour moi un objectif, c'est un moyen de diversifier, de progresser, d'apprendre.
Vous n'avez pas fixé à vos équipes un objectif à atteindre de part de produits bio à vendre demain tout en respectant des prix raisonnables.
Non, ce qu'on s'est fixé, c'est qu'on aurait d'ici 2025 100% de notre agriculture en agriculture régénératrice, c'est-à-dire une agriculture qui repart de la biodiversité et de la santé des sols, qui construit du bien-être animal, qui construit des revenus durables pour des générations d'agriculteurs et pas seulement celle-ci. Et c'est donc un ensemble intégré. C'est l'agriculture régénératrice qui me semble être le point de focalisation.
100% dans 6 ans, aujourd'hui, vous êtes à quelle proportion ?
Aujourd'hui, en France, on est à plus de 70%. Mais vous prenez le bio, par exemple. Les récoltes bio de Blédina est devenue leader dans la catégorie de l'alimentation infantile sur le bio en France. Nous n'arrivons à ne nous fournir que 50% des besoins en bio en France. Parce que quand on ajoute le cahier des charges de l'alimentation infantile et celle du bio, pour l'instant, on n'est qu'à 50. Un des projets qui va être soutenu par l'opération que nous démarrons aujourd'hui, Je sais, j'agis, va contribuer à ce que d'ici 2020, et c'est donc l'année prochaine, c'est pas dans 5 ou 6 ans, 80% de nos approvisionnements en bio, en alimentation infantile, viendra autour de nos usines de l'agriculture française.
Emmanuel Faber, PDG de Danone, vous restez avec nous. Dans un instant, je vais vous demander si vous faites partie des millions de Français qui ont sur leur téléphone une petite application qui s'appelle Yuka. Quand vous faites les courses, vous nous direz si c'est le cas. Et puis on parlera aussi des effets de la loi alimentation sur le portefeuille des consommateurs et sur les agriculteurs. 8h40, d'abord Mélanie Delaunay pour le rappel de l'actualité.
Les conducteurs sans assurance dans le viseur de la sécurité routière. Désormais, si vous êtes flashé par un radar, votre plaque d'immatriculation est comparée au fichier des véhicules assurés. Et si vous n'êtes pas en règle, un rappel à l'ordre dans un premier temps. Et d'ici 3 mois, début des sanctions, 750 euros d'amende. Nous allons commander 1000 bracelets anti-rapprochement, annonce sur France Info ce matin de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Les députés ont adopté quasiment à l'unanimité cette mesure contre les violences conjugale qui a fait ses preuves en Espagne. Édouard Philippe tente de clore la polémique. Le Premier ministre ne souhaite pas de loi pour interdire le port du voile aux accompagnatrices de sorties scolaires. Il l'a dit aux députés hier. Et puis le vice-président américain Mike Pence s'envole aujourd'hui pour la Turquie. Rencontre demain avec Recep Tayyip Erdogan. Et une mission, le convaincre d'arrêter son offensive en Syrie. Mais le président turc est catégorique. Un cessez-le-feu est hors de question.
France Info. Et tout est plus clair.
Emmanuel Faber, 13 millions de Français ont téléchargé donc cette petite application qui s'appelle Yuka. Là, je fais de la publicité, pardon pour Renault et pardon pour le CSA, qui permet de faire ses courses en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant la valeur nutritionnelle des produits qu'on met dans son marché. Je voudrais savoir si vous aussi, vous l'avez, que ce soit pour vous ou au moins pour savoir ce que les Français pensent de vos produits.
Non, je ne l'ai pas. Yuka est une application qui est intéressante parce qu'elle elle participe à reconnecter les Français avec leur alimentation. Je me passe de Yuka, même si nous sommes évidemment en dialogue avec Yuka sur la façon dont fonctionne l'application. Il y a beaucoup d'autres applications, il va y en avoir beaucoup d'autres. Nous avons travaillé depuis longtemps avec le gouvernement pour la mise en place d'un système qui s'appelle Nutri-Score, qui est aujourd'hui, on a été les premiers en fait à piloter Nutri-Score en France.
C'est le classement A, B, C, D, E. Absolument. Qui fonctionne en France, mais l'Allemagne vient de l'adopter aussi.
Absolument.
Il est en train de se généraliser chez nos voisins.
Voilà, et donc c'est ça le modèle qu'on pousse. Mais je pense qu'il en faut plusieurs. Il faut une pluralité de modèles. Un des vrais sujets, c'est de bien comprendre, et c'est le risque d'avoir une note trop globale, c'est de bien comprendre ce qu'il y a derrière cette note. Un aliment non transformé, c'est un aliment naturel dans lequel rentre par exemple le yaourt nature, où il y a du lait et des ferments. Puis vous avez la deuxième catégorie qui sont les ingrédients qui sont issus de concassage, de broyage, ça peut être le sel, de l'huile, etc. Vous rentrez dans les aliments dits transformés dès que vous mélangez le premier avec le deuxième. C'est-à-dire le pain, c'est un aliment transformé, qu'il soit celui du boulanger d'ailleurs, ou celui que vous trouvez dans les
linéaires. Et ça fait mécaniquement baisser sa note ?
Ça fait mécaniquement baisser sa note. Un aliment ultra transformé, c'est dès que vous en avez plus de 4. Plus de 4, ça veut dire que quand, par exemple, on met du colorant naturel, c'est la plupart de nos produits ne contient aucun colorant. Mais quand on met un colorant naturel, du jus de betterave, par exemple, ou de carotte, on rentre dans la catégorie des aliments ultra transformés. Entre ça et des plats préparés extrêmement complexes, à durée de vie extrêmement longue, vous voyez bien qu'il y a un panel qui fait que comparer un Activia aux fruits et le mettre dans la même catégorie que les produits dont je viens de parler, ça ne rentre pas, de mon point de vue, dans la bonne compréhension de ce qui est véritablement derrière l'alimentation.
Est-ce que donc ça c'est contribue quand même à redonner le pouvoir aux consommateurs face à des géants comme votre groupe qui pèse, je l'ai dit tout à l'heure, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que ça redonne quand même un peu le pouvoir au local?
Mais oui, évidemment.
À ceux qui sont au bout de la chaîne.
Évidemment, mais quand vous voyez que on teste par exemple du yaourt en vrac, marque Ferbien, bio.
C'est-à-dire on vient servir dans un pot, on remplit, on
vient
part
avec une machine. Ouais, on était chez Day by Day, une petite enseigne parisienne. J'habite dans le nord de Paris, pas très loin. Je passe un soir, je vois l'équipe pendant la semaine de test et je viens faire un geste. Ils me prennent en photo. On met ça sur Twitter, 1 million de vues. Donc ça dit quelque chose, ça dit que les pratiques alimentaires ont envie de changer. Les gens ont envie de changer de pratique, de tester des choses. Mais il faut être clair sur le fait qu'il n'y a pas de solution simple. Les solutions sont complexes. Il faut se méfier du simplisme et de la démagogie. Sinon, on part vers des solutions qui vont nous emmener dans le mur. On verra le mur dans 5 ans. Donc, permettre aux Français, Françaises de s'interroger sur leur mode alimentaire, je pense que c'est très très bien. Ces applications y participent.
Renaud Dely.
Emmanuel Faber, la loi alimentation adoptée par le gouvernement entre dans sa deuxième année d'application. Cette loi, rappelons-le, elle vise officiellement à améliorer le revenu des agriculteurs, notamment dans leurs négociations avec les grandes surfaces et avec les distributeurs et avec l'industrie agroalimentaire. Or, selon les premiers résultats évoqués par certaines associations de consommateurs, comme UFC Que Choisir, cette loi, pour sa première année, elle aurait davantage profité à l'industrie agroalimentaire et aux grandes surfaces qu'à améliorer le revenu des agriculteurs.
Écoutez, je pense que ce n'est pas exact.
Vous, par exemple, dans vos négociations avec les producteurs de lait, vous payez plus cher aujourd'hui?
Oui, d'abord. Enfin, nous, on a mis en place depuis 10 ans des contrats à long terme avec nos éleveurs en France. En France, on travaille avec à peu près 1700 éleveurs laitiers autour des 5 laiteries qu'on a et on collecte à 60 kilomètres auprès d'éleveurs qui ont 70 vaches en moyenne. Donc on parle d'agriculture familiale et on achète en direct notre lait, comme partout dans le monde d'ailleurs, partout dans le monde avec des centaines de milliers d'agriculteurs. Donc on a mis en place des contrats.
Pardon, la plus grosse ferme à laquelle vous achetez, elle a combien de vaches?
On doit être aux États-Unis 1500 vaches.
Et en
ce qui aux États-Unis est tout petit.
Ouais. Et en France?
Je sais pas, 120, 130.
Il n'y a pas de ferme géante.
Il n'y a aucune ferme géante. Non. Et on pourrait discuter de pourquoi, comment, etc. Mais c'est comme ça.
Et à quel prix vous achetez alors?
On a acheté pendant la crise du lait entre 8 et 10% plus cher que l'ensemble de l'industrie. C'était en 2015-2016, au plus profond de la crise. Depuis 2015, on a mis en place, additionnellement à ces contrats de moyen terme, la prise en compte des coûts de production. C'est-à-dire que les éleveurs nous facturent en fonction de leurs propres coûts de production, en particulier le fourrage. Donc quand les coûts augmentent, ils répercutent automatiquement les prix sur Danone. Et donc je n'ai aucune difficulté à dire en toute transparence que l'ensemble des augmentations qui ont été passées, et elles sont faibles, on parle juste de... Faut bien se rendre compte qu'en 2017, au moment où on a discuté de tout ça, les prix étaient équivalents à ceux de 2012. Donc il y a de la l'inflation un peu partout en France. Ça n'échappe à personne sur cette période-là. Les prix avaient baissé. On est dans une phase où il était impératif de remonter les prix de la filière et de remonter les prix sur les linéaires également. Donc on l'a fait de façon extrêmement limitée. On peut dire qu'on a stoppé la déflation. Quand je vois des distributeurs se prendre en photo avec des éleveurs à l'occasion de signature des premiers accords de filière l'année dernière, je pense qu'on va, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. La loi n'a pas tout résolu, mais elle a permis d'éviter de mettre un stop à cette déflation qui était mortelle.
Et demain, le groupe Danone s'engage à continuer justement à
Évidemment, enfin, je veux dire, ça fait 20 ans qu'on fait ça, on va continuer à le faire, bien sûr.
Ça, c'était pour les producteurs de lait notamment. L'autre inquiétude à l'époque de la loi alimentation et de son vote, c'était que le prix des produits de marque augmente avec la fin de certaines ristournes accordées par les grandes surfaces. Ouais. Mon yaourt acheté il y a 2 ans de votre marque, pour ne pas la citer, et aujourd'hui, il a augmenté de combien ?
Ça dépend ce que vous achetez, mais en moyenne, sur les grandes marques,
celui que vous avez cité tout à l'heure, Activia.
0,1% en moyenne sur d'augmentation entre 2018 et 2019 sur les grandes marques alimentaires.
C'est-à-dire un centime,
si vous voulez.
En gros,
Même pas, puisque Activia par 4 chez Auchan, puisque c'est notre partenaire, allez-y, vous pourrez financer les projets agricoles dont je parlais tout à l'heure, est à 1,30 aujourd'hui.
Donc, hausse quasiment invisible pour les consommateurs. De ce point de vue-là, les associations se sont trompées
concerne vos produits. Mais faisons simplement les calculs. Quand on met 1,6 milliard d'euros d'inflation sur 2 ans, ça paraît énorme. Vous ramenez ça au budget des ménages et au nombre de ménages, 29 millions de ménages en France, 70 millions de Français, ça fait 22 euros par ménage sur 2 ans.
Sur 2 ans, 11 euros. 10 euros par an noyés dans les courses de chaque semaine.
Ben, 380 euros par mois et donc 4500 euros par an, ça fait 0,3% d'inflation. Enfin, c'est juste des maths.
Ça veut dire aussi, cette loi, elle visait aussi à supprimer les super promotions géantes qui ça n'a pas d'effet aussi sur le portefeuille du consommateur.
C'est inclus dans ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire les observations, le 1,6 milliard d'euros sur 2 ans d'inflation sur les prix alimentaires à l'échelle de la France inclut le respect, et il était nécessaire, de la réduction des volumes de promotion.
Et à vos yeux, il faut continuer d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire cette loi, cette loi au bout d'un an vous semble positive, mais il faut renforcer...
Oui, il faut renforcer le contrôle de son application, il faut renforcer la connexion des Français à leur filière agricole. Je vais le dire de façon un peu courte, mais en moyenne, nous ne payons pas le véritable prix de notre alimentation. C'est pas vrai. Je veux dire, les agriculteurs ne vivent pas suffisamment bien pour pouvoir investir pour une agriculture demain. Le changement climatique va faire qu'on ne pourra plus cultiver de blé dans une ligne au sud de La Rochelle-Valence dans 25 ans. Donc, on fait quoi si c'est ça ?
Il faut anticiper cette
évolution. Donc, il faut anticiper. Il faut réintroduire des semences traditionnelles. Il faut réintroduire d'autres variétés, y compris d'ailleurs dans le domaine du lait. Et pour ça, il faut investir. L'agriculture tient les clés de l'alimentation de demain. Il faut les lui rendre. Et pour ça, il faut accepter in fine, en tant que société, de faire des arbitrages entre l'électronique que nous importons de Chine et le lait ou les légumes que nous achetons en proximité en France.
Emmanuel Faber, PDG de Danone, on va parler dans un instant des patrons, de leur salaire, de leur retraite chapeau également, si vous voulez bien. Mais d'abord, le rappel de l'actu à 9h10, c'est Mélanie Delaunay qui vient de nous rejoindre.
En plein débat sur le voile, une sortie scolaire annulée à la caserne des pompiers de Creil dans l'Oise avant-hier en raison de la présence de 2 mères accompagnatrices voilées. C'est une erreur d'interprétation, s'excuse le service de secours. 6 sapeurs-pompiers interpellés, des affrontements avec la police en fin de manifestation hier entre 7000 et 10000 pompiers professionnels dans les rues de Paris pour réclamer plus d'effectifs. Le revirement de Laetitia Hallyday, elle reconnaît finalement la compétence de la justice française et donc de la loi française pour trancher l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday qui l'oppose aux 2 enfants aînés du chanteur. Le gouvernement espagnol dénonce une violence généralisée. 2e soirée de manifestation à Barcelone et dans plusieurs villes de Catalogne. Elles se sont terminées en affrontement avec les forces de l'ordre. Des milliers de personnes protestent contre la condamnation de dirigeants indépendantistes.
France Info. et tout est plus clair.
Toujours avec le PDG du groupe Danone, Emmanuel Faber, avant de parler de l'argent des patrons, les suites de l'incendie de Rouen avec Renaud Dely.
On va revenir un instant sur les producteurs laitiers qui ont été concernés et frappés par cet incendie, qui ont dû pour certains détruire donc leur production. Près de trois semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, Emmanuel Faber, il y a des producteurs de lait, des agriculteurs qui se plaignent du comportement de Danone. Je vous propose d'écouter un producteur de lait du département de Seine-Maritime.
Là, j'ai eu des contacts avec l'entreprise Sodial et l'entreprise Danone qui ont des acheteurs de lait qui ne veulent plus de lait de Seine-Maritime. Donc en fait, on a mis énormément de temps à obtenir une notoriété sur les produits sénomarins, les produits normands. Et avec cet accident industriel, toute cette notoriété-là est rendue à mal, quoi.
Emmanuel Faber, votre groupe Danone aujourd'hui ne veut plus acheter de lait de Seine-Maritime ?
Oh non, c'est juste faux. Je veux dire, on a été mobilisés, on a 50 personnes mobilisées depuis le début de cette crise, y compris en finançant nous-mêmes des analyses complémentaires en accéléré pour être sûr de ce qui allait ressortir de tout ça, à l'égard des 150 de nos 450 producteurs de Normandie en particulier, qui étaient affectés par cette crise, en surveillant avec eux tous les jours le niveau de stock, en séchant tout ce qui a pu être séché et stocké en attendant de savoir si c'était propre à la consommation ou pas. Et on a repris la collecte dès que possible. Et on avait, comme vous l'imaginez bien, avec nos agriculteurs, des représentants dans les ministères, tant du point de vue sanitaire qu'agricole, tous les jours, toutes les heures, pour savoir comment on allait reprendre dans des conditions de sécurité totale et de sécurisation la production et la transformation. Donc
aujourd'hui, c'est le cas.
Absolument, oui. La collecte a redémarré hier, dès qu'elle a été autorisée hier matin.
Emmanuel Faber, le gouvernement veut s'attaquer aux patrons de grands groupes français, aux patrons français qui ne payent pas nécessairement leurs impôts en France, comme ça a été le cas pendant des années de Carlos Ghosn. Un amendement pourrait être ajouté au budget qui est en cours d'examen à l'Assemblée. Ça vous semble naturel que le patron d'un groupe français paye ses impôts ici ?
Oui.
C'est votre cas ?
Oui.
Oui, c'est le cas de tous vos collègues du CAC 40 aujourd'hui.
Vous leur demandez, je ne sais pas.
Mmh. Il faut en faire une règle.
Je ne sais pas parce que diriger une entreprise mondiale nécessite d'être localisé là où sont ses activités, si on veut être efficace. Et donc la question de savoir où vous générez des revenus, je veux dire, si d'une certaine façon on taxe les GAFA sur leurs revenus en Europe, moi je trouve que c'est cohérent. À partir du moment où vous avez une activité mondiale, l'endroit où vous vous placez, et donc là où vous êtes résident fiscal, ça doit être principalement déterminé par une raison business. Ensuite, quand ce sont des entreprises dont le siège social mondial est en France, évidemment ça crée un barycentre vers ça, et ça pose de façon très légitime la question que vous vous posez et qu'on se pose. Mais est-ce qu'il faut en faire une règle absolue ? Je ne sais pas, franchement.
Emmanuel Faber, Marc Fauvel rappelait tout à l'heure que vous avez renoncé, vous l'avez annoncé il y a quelques mois, à votre retraite chapeau. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision et ça représentait une somme de quel ordre ?
Ça vous fait sourire quand on vous rappelle ça, parce que je suppose qu'on vous pose la question à chaque fois. Ouais, et voyons, on le fait quand même.
Mais non, mais parce que c'est pas très important. Je suis rentré chez Danone.
C'est pas très important, pardon, je vous interromps avant même que vous ayez répondu. Oui. Et vous n'êtes pas très nombreux à le faire non plus.
Mais chacun fait comme il le sent, mais je vais juste vous répondre. Moi, je suis rentré chez Danone, j'avais 33 ans. C'était plus important pour moi de savoir ce qu'on allait faire dans les 20 ans qui allaient suivre que dans les 20 ans suivants. Il se trouve qu'en ayant été très très longtemps dans cette entreprise, et dans les conditions à l'époque dans lesquelles étaient construits les schémas de retraite, qui étaient complètement standards par rapport à la façon dont les choses se faisaient il y a 25 ans, aujourd'hui, j'ai estimé que j'avais pas besoin de ça. Je gagne très très bien ma vie. Par rapport à ce dont j'ai besoin.
Votre salaire est public ou pas ?
Oui, bien sûr qu'il est public. Donc c'est très facile. Mais c'est juste pour dire que je n'avais pas besoin de ça et donc j'ai décidé de m'en passer. Et c'est tout. Et j'ai rien de plus à dire.
Mais ça veut dire que c'est un mode de rémunération qui vous semble indécent, la retraite chapeau ? Aujourd'hui, c'est encadré, c'est plafonné par la loi. Est-ce qu'il faudrait les supprimer ?
Voilà, c'est très bien, c'est encadré.
Est-ce qu'il faudrait les supprimer ?
C'est très bien et c'est encadré.
Il faut plus y toucher. La législation actuelle.
Je sais pas ce dont je parle. Moi, je m'occupe de moi-même en ce qui me concerne. J'ai de leçons à donner à personne. C'est un choix qui est personnel parce qu'il est dans mes équilibres à moi et plein d'autres gens ont leurs propres équilibres. Et en revanche, qu'il y ait un encadrement de ces éléments de retraite me semble être extrêmement nécessaire et c'est le cas.
Et vous, dans votre cas, vous avez renoncé à un peu plus d'1 million d'euros, 1 200 000 euros, c'est ça, qui ont été reversés à l'entreprise? dans le cadre de la retraite.
Tout dépend comment vous faites vos calculs.
Mal, sans doute.
Voilà. 1 200 000 euros par an.
Il y avait une provision dans les comptes de Danone pour ça, qui était conséquente, oui.
Il y a un débat en France qui ressurgit ces derniers jours, comme il le fait d'ailleurs très régulièrement, Emmanuel Faber, sur le port du voile. Je voudrais savoir, à l'échelle d'une entreprise comme la vôtre, en France, est-ce que le voile pose parfois problème ou question ?
Là, vous touchez deux sujets qui sont complexes et importants, en particulier pour une entreprise qui a une présence mondiale. Le premier, c'est la question de la discrimination. Dans une entreprise, il ne peut pas en être question. Et la deuxième, c'est la présence du fait religieux à l'intérieur de la vie, des civilisations, des sociétés. Et chaque pays a, vis-à-vis du fait religieux, une tradition qui est différente. On en a une en France qui est très particulière, mais on est en Indonésie, qui est un très grand pays pour nous, depuis très longtemps. Et en Indonésie, il y a des salles de prière dans toutes nos usines, de même qu'il y a d'ailleurs des salles d'allaitement, puisqu'on les a mis en place dans toutes nos usines, dans tous nos sites au niveau mondial chez Danone. Et donc, arriver à travailler, en particulier quand on parle d'alimentation, de halal, de kasher, il y a des notifications qui sont importantes. Et je vous parle de l'Indonésie parce que c'est le premier pays musulman au monde, hein, 250 millions d'habitants. Et donc, le fait religieux, c'est une réalité beaucoup plus marquée dans d'autres pays, parfois plus apaisée, parfois plus radicalisée. Et nous devons vivre avec ça. Et en particulier, j'y reviens parce que les racines, il y a des racines religieuses, sociales, spirituelles, culturelles dans l'alimentation.
Merci à vous, Emmanuel Faber, PDG de Danone, invité ce matin de France Info.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.